À peu près vers l'époque où Sol faisait ce rêve, Rachel se trouvait sur Hyperion, où elle achevait sa première année de recherche. Les gens de son équipe, composés de 9 archéologues et de 6 physiciens, trouvaient la forteresse de Cronos fascinante, mais beaucoup trop fréquentée par les touristes et les candidats au pèlerinage Grichtek. Ils avaient donc, après avoir passé un mois à faire la navette entre le site et l'hôtel, établi un camp permanent entre les ruines de la cité et le petit canyon abritant les tombeaux du temps. Pendant qu'une moitié de l'équipe creusait le site plus récent de la cité inachevée, deux des collègues de Rachel l'aidaient à dresser un catalogue complet des différents aspects des tombeaux. Les physiciens étaient fascinés par les champs anthropiques et passaient une grande partie de leur temps à planter des petits drapeaux de toutes les couleurs pour marquer les limites de ce que l'on appelait les marais du temps. L'équipe de Rachel concentrait son travail sur la structure appelée le sphinx, bien que la créature de pierre n'eût l'aspect ni humain ni léonin. Il n'était même pas certain que ce fût la représentation d'une créature, malgré les lignes légèrement ondulées au sommet du monolithe, qui suggéraient des courbes vivantes, et les appendices évasés qui faisaient immédiatement penser à des ailes. Contrairement aux autres tombeaux, ouverts et facilement visibles à l'intérieur, le sphinx était un assemblage de gros blocs ménageant des alvéoles et des passages étroits, certains se resserrant progressivement de manière infranchissable, d'autres s'élargissant aux dimensions d'un auditorium, mais ne menant nulle part de toute manière et revenant seulement sur eux-mêmes. Il n'y avait ni crypte, ni salle du trésor, ni sarcophage pillé, ni fresque, ni passage secret. Rien d'autre qu'un labyrinthe de corridors insensés aux parois suintantes. Rachel et son petit ami, Melio Arundez, commencèrent à établir un relevé du sphinx selon une méthode en usage depuis au moins 700 ans et expérimentée déjà au XXe siècle sur les pyramides égyptiennes. Après avoir disposé des détecteurs sensibles de radiation et de rayonnement cosmique au point le plus bas du sphinx, ils enregistrèrent les temps d'arrivée et les diagrammes de déviation des particules qui franchissaient la masse de pierre au-dessus d'eux, essayant de découvrir des chambres ou des passages secrets que même les radars à haute résolution n'avaient pu déceler. En raison de la présence des touristes, assez nombreux en cette saison, et du Conseil intérieur d'Hyperion, qui craignait que ses recherches n'endommagent les tombeaux du temps, Rachel et Melio quittaient le campement chaque soir à minuit, mettaient une heure pour traverser, parfois en rampant, le dédale des corridors qu'ils avaient équipés de globes lumineux bleuâtres, puis restaient accroupis sous des centaines de milliers de tonnes de pierre, surveillaient leurs instruments jusqu'au matin, les oreilles pleines du ping des particules nées dans le ventre des étoiles mourantes. Les marais du temps n'avaient pas posé de problème particulier au sphinx. De tous les tombeaux, il semblait être le moins protégé par les champs anentropiques, et les physiciens avaient soigneusement établi le diagramme des moments où les maximums des marées pouvaient constituer une menace. La marée haute se situait à 10 heures et elle refluait seulement 20 minutes plus tard en direction du tombeau de Jade, qui se trouvait à 500 mètres au sud. Les touristes n'avaient pas le droit de s'approcher du sphinx avant midi. Pour s'assurer une marge de sécurité suffisante, les responsables du site faisaient en sorte que tout le monde soit parti avant 9 heures. L'équipe des physiciens avait installé des capteurs chronotropes en différents points du sentier et des passerelles qui desservaient les tombeaux, à la fois pour détecter les variations des marées et pour mettre les visiteurs en garde. Rachel était à peine à 3 semaines de la fin de son année de recherche sur Hyperion lorsqu'elle se leva une nuit, quitta son amant qui dormait à côté d'elle et prit une jeep à effet de sol pour se rendre du campement au tombeau. Melio et elle avaient décidé qu'il était stupide d'aller chaque nuit surveiller tous les deux les appareils et qu'il valait mieux alterner. Pendant que l'un des deux restait travailler au site, l'autre pouvait classer les données et les préparer en vue de leur projet final, l'établissement d'un relevé radar de toutes les dunes situées entre le tombeau de Jade et l'obélisque. La nuit était splendide et fraîche. Les étoiles emplissaient le ciel d'un horizon à l'autre. Il y en avait 4 ou 5 fois plus que dans celui du monde de Barnard où Rachel avait grandi. Les dunes plates semblaient bruire et onduler sous la brise qui soufflait des montagnes du sud. Rachel trouva le site encore éclairé. L'équipe des physiciens venait de terminer sa journée et était en train de charger la jeep. Elle échangea quelques mots avec eux, se fit une tasse de café tandis qu'ils s'éloignaient, prit son sac à dos et s'avança sur le sentier qui menait au sphinx en une vingtaine de minutes. Pour la centième fois, elle se demanda qui avait bien pu édifier ces tombeaux et dans quel but. La datation des matériaux n'avait rien révélé en raison des effets exercés par les champs anthropiques. Seule l'analyse des tombeaux, en relation avec l'érosion du canyon et avec les autres formations géologiques environnantes, avait pu suggérer un âge d'un demi-million d'années au moins. Le sentiment général était que les architectes des tombeaux du temps appartenaient à une espèce humanoïde, bien que rien d'autre que l'échelle globale des constructions ne suggérât une telle chose. Les galeries du Sphinx ne révélaient rien de particulier à cet égard. Si certaines étaient de forme et de taille à peu près humaines, le même couloir, quelques mètres plus loin, pouvait très bien se resserrer au point de n'être plus qu'un tube de la taille d'une canalisation d'égout, puis s'élargir soudain aux dimensions d'une caverne qui n'avait rien de naturel. Les entrées, si toutefois elles pouvaient être appelées ainsi, car elles ne s'ouvraient sur rien de particulier, avaient parfois la forme d'un triangle, parfois celle d'un trapèze ou d'un décagone, quand ce n'était pas celle d'un simple rectangle. Rachel descendit les 20 derniers mètres de pente abrupte en rampant et en faisant glisser son sac à dos devant elle. Les globes lumineux sans émission de chaleur donnaient à la roche et à sa peau une coloration exsangue et bleutée. La caverne, lorsqu'elle l'atteignit enfin, lui apparut comme un havre d'odeur et de désordre humain. Plusieurs fauteuils pliants occupaient le petit espace libre central, tandis que des détecteurs, oscilloscopes et autres appareils s'alignaient sur la table étroite adossée à la paroi nord. Une planche sur des chevalets, le long du mur opposé, était garnie de tasses à café, d'un jeu d'échecs, d'un beignet à moitié mangé, de deux livres à couverture souple et d'une sorte de jouet de plastique représentant un chien dans l'herbe. Rachel s'installa, posa son thermos près de la garniture de plastique et regarda les détecteurs de rayonnement cosmique. Les relevés semblaient inchangés. Pas la moindre caverne, ni le moindre passage secret. Tout au plus quelques cavités que le radar avait négligées. Dès le lendemain matin, Melio et Stéphane avaient l'intention de mettre en place une sonde munie d'un filament imageur, puis de faire un prélèvement d'air avant d'explorer ces cavités avec le micromanipulateur. Jusqu'à présent, ils avaient découvert une dizaine de crevasses du même genre et leur exploration n'avait rien révélé d'extraordinaire. La plaisanterie qui circulait au camp était que la prochaine cavité, pas plus grosse que le poing, recèlerait des mini-sarcophages, des urnes en miniature et une toute petite momie ou, comme disait Melio, un Toutankhamon lilliputien. Machinalement, Rachel essaya les canaux de communication de son persoc. Rien ne passait. Normal, sous 40 mètres de pierre. Il avait été question de tirer une ligne téléphonique à partir de la surface, mais l'urgence ne s'en était jamais vraiment fait ressentir et leur séjour arrivait maintenant à sa fin. Elle ajusta les réglages de réception du persoc sur les émissions des capteurs et se prépara à une longue nuit d'ennui. Elle songea à cette merveilleuse histoire du pharaon de l'ancienne Terre, Khéops, si son souvenir était bien exact, qui, après avoir autorisé la construction de son énorme pyramide et accepté que la chambre sépulcrale soit profondément enterrée sous le centre de l'édifice, était demeuré ensuite éveillé toute la nuit, durant des années, en proie à une panique claustrophobique à l'idée des centaines de milliers de tonnes de pierres qui seraient au-dessus de sa tête pour l'éternité. Finalement, le pharaon avait ordonné que la salle sépulcrale soit placée aux deux tiers de la hauteur de la grande pyramide. Solution peu orthodoxe. Mais Rachel comprenait la position du roi. Et elle espérait, où qu'il soit maintenant, qu'il dormait mieux ainsi. Elle avait presque succombé elle-même au sommeil lorsque son persoc se mit brusquement à bourdonner. Il était exactement 2h15. Les détecteurs hurlèrent et elle bondit sur ses pieds. D'après les instruments, le sphinx avait maintenant une douzaine de nouvelles salles, dont certaines étaient plus grandes que la structure totale. Rachel régla fébrilement l'affichage des moniteurs et l'air devint flou tandis que les modèles changeaient de forme sous ses yeux. Les dessins des corridors s'enroulaient sur eux-mêmes comme des rubans de Mobius en rotation. Les capteurs extérieurs indiquaient que le sommet du sphinx se courbait et s'agitait comme du polyflex au vent, ou bien comme des ailes. Rachel ne doutait pas qu'elle eût affaire à une forme de défaillance multiple du matériel, mais elle s'acharnait à recalibrer les données et à les retraiter sur son persoc lorsque plusieurs choses se produisirent en même temps. Elle entendit un lourd bruit de pas dans le corridor au-dessus d'elle. Tous les systèmes de visualisation s'éteignirent. Quelque part, dans le dédale des couloirs, un signal d'alarme branché sur les marées du temps retentit. Toutes les lumières s'éteignirent. Ce dernier événement était insensé. Les appareils avaient tous une alimentation autonome et même une explosion nucléaire n'aurait pas pu avoir d'effet sur eux. Les éclairages qu'ils utilisaient dans la caverne avaient des batteries d'une durée de vie de 10 ans. Quant aux globes qui éclairaient les galeries, ils étaient bioluminescents et ne nécessitaient aucune source d'énergie. Toutes les lumières s'étaient quand même éteintes. Rachel sortit une torche laser de la poche du genou de sa combinaison et l'actionna. Il ne se passa rien. Pour la première fois de sa vie, Rachel Weintraub sentit la terreur la gripper comme une main se refermant sur son cœur. Elle ne pouvait plus respirer. Durant 30 secondes, elle se força à demeurer parfaitement immobile, sans même écouter, attendant simplement que la panique reflue. Lorsqu'elle put enfin respirer sans halter, elle se dirigea en tâtonnant vers les instruments et essaya de les faire fonctionner. En vain. Soulevant son persoc, elle fit tourner le disque du pouce. Rien ne se passa non plus. Tout cela était absolument impossible, bien entendu. L'objet était pratiquement indestructible et son alimentation à toute épreuve. Elle entendait ses propres pulsations, mais elle maîtrisait mieux la panique et commença à se diriger, toujours à tâtons, vers la seule issue de la caverne. L'idée qu'il lui faudrait retrouver son chemin à travers le dédale des galeries dans l'obscurité totale la rendait folle. Mais elle ne voyait aucun autre moyen de procéder. Une seconde. Il y avait des lumières un peu partout à l'intérieur du sphinx, mais l'équipe de recherche à laquelle elle appartenait avait suspendu les globes d'éclairage. Oui, ils étaient suspendus à un câble en perlon qui remontait jusqu'à la surface et qui lui suffisait de suivre. Parfait. Elle sentit sous ses doigts, en se rapprochant de la sortie, la froideur de la roche. Était-elle si froide que cela à son arrivée? C'est alors qu'elle entendit très distinctement le bruit de quelque chose qui raclait la galerie en pente.
« Mélio !»
cria-t-elle dans l'obscurité.
« Tania ! Kurt !»
Le frottement se rapprochait d'elle. Elle recula, renversant dans le noir un fauteuil et un appareil. Elle sentit quelque chose qui lui touchait les cheveux. Elle poussa un cri étouffé et leva la main. Le plafond était plus bas qu'avant. La dalle de pierre massive de 5 mètres carrés environ descendit encore au moment même où elle levait l'autre main pour la toucher. L'ouverture de la galerie était à mi-hauteur de la paroi. Elle avança vers elle en titubant, les mains tendues en avant comme une aveugle. Elle trébucha sur un fauteuil pliant, trouva la tablette aux instruments, la suivit jusqu'à la paroi et sentit le bord inférieur de la galerie disparaître, tandis que le plafond continuait de descendre. Elle dut retirer promptement ses doigts avant qu'ils ne fussent sectionnés. Elle s'assit par terre dans le noir. Le haut d'un oscilloscope entra en contact avec le plafond. La table se mit à craquer, puis s'effondra dans un grand bruit. Rachel ne cessait de bouger la tête d'un côté, puis de l'autre, par petits mouvements courts et désespérés. Il y eut un grincement métallique rauque, presque un bruit de respiration à moins d'un mètre d'elle. Elle recula lentement, en se traînant par terre au milieu des débris des appareils. La respiration se fit plus forte. Quelque chose d'acéré, d'une froideur extrême, lui saisit le poignet. À la fin, elle hurla. Il n'y avait pas de mégatransmetteur sur Hyperion à cette époque, et le vaisseau de spin, Pharo, n'avait pas non plus de mégatrans à son bord. Sol et Sarai n'apprirent donc l'accident survenu à leur fille que lorsque le consulat de l'hégémonie sur Parvati avisa l'université que Rachel était blessée, inconsciente mais dans un état stationnaire, et qu'elle était rapatriée sur le vecteur Renaissance à bord d'un vaisseau torche hôpital. Le voyage prendrait un peu plus de 10 jours en temps de transit, avec un déficit de temps égal à 5 mois. Ces 5 mois représentaient un vrai supplice pour Sol et Sarai, qui eurent 1000 fois le temps d'imaginer le pire avant que le vaisseau hôpital arrive au noyau d'Istrance de Renaissance. Ils n'avaient pas revu leur fille depuis 8 ans. Le centre médical de Vinci était une tour flottante soutenue par une énergie à diffusion directe. La vue sur la mer de Côme était époustouflante, Mais ni Sol ni Sarai n'avaient le temps de s'attarder, tandis qu'ils parcouraient les corridors à la recherche de leur fille. Le docteur Singh et Melio Arundez les accueillirent dans le moyeu de la section des soins intensifs. Les présentations expédiées, Sarai demanda
« Où est-elle ?»«
Elle dort »,
fit le docteur Singh, une grande femme d'allure aristocratique mais au regard empreint de gentillesse. « Pour autant que nous puissions l'affirmer, elle ne souffre d'aucune commotion physique. Mais elle est restée longtemps dans le coma, depuis 17 semaines de son temps réel exactement, et il n'y a qu'une dizaine de jours que ses ondes cérébrales indiquent qu'elle a quitté le coma pour présenter plutôt les symptômes d'un profond sommeil.
« Je ne comprends pas », déclara Sol. « Que s'est-il passé là-bas? Un accident? Un choc ?»«
Il s'est effectivement passé quelque chose », intervint Melio Arundez. « Mais nous ne savons pas quoi exactement. » Rachel était à l'intérieur de l'un des artefacts, toute seule, et ni son persoc ni les autres instruments n'ont rien enregistré d'extraordinaire. Mais il y a eu cette nuit-là un pic d'activité concernant ce que nous appelons les champs anentropiques,
les marées du temps, coupa Sol. « Nous savons ce que c'est. Continuez. »
Arundez hocha la tête et courba les mains comme pour modeler l'air. Cela ressemble à une surcharge locale, un mini raz-de-marée si vous voulez, par rapport à une marée normale. Le sphinx, c'est le nom de l'artefact où se trouvait Rachel, a été totalement submergé, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune destruction physique, mais Rachel a été retrouvée inanimée et... Il se tourna vers le docteur Singh comme pour lui demander de l'aide.
« Votre fille était dans le coma, » dit-elle. Nous ne pouvions pas, dans cet état, lui faire subir la fugue cryotechnique.
« Elle a fait le saut quantique sans être en état de fugue ?» s'étonna Sol.
Il avait lu quelque part que les voyageurs soumis directement à l'effet Hawking pouvaient souffrir de graves séquelles psychologiques.
« Rassurez-vous, » lui dit Singh, « dans l'état d'inconscience où elle se trouvait, elle était tout aussi protégée que dans la fugue. »«
Est-elle blessée ?»
demanda Sarai.
« Nous l'ignorons. »
Ses paramètres vitaux sont tous proches de la normale. Son activité cérébrale est à la limite de la conscience. Le seul problème est que son organisme semble avoir absorbé... Disons que les champs anentropiques l'ont contaminé.
Sol se passa la main sur le front. « Des radiations ?» demanda-t-il.
« Pas exactement. C'est un cas tout à fait nouveau pour nous. Des spécialistes du vieillissement doivent arriver ici cet après-midi de TC Carré, Lusus et Metaxas. »
Sol la regarda dans les yeux.
« Vous voulez dire que Rachel a contracté sur Hyperion une maladie du vieillissement? Quelque chose comme le syndrome de Mathusalem ou la maladie d'Alzheimer ?»«
Non, »
soupira le docteur Singh.
« La maladie de votre fille n'a pas de nom, en fait.
Les gens qui la soignent ici l'appellent provisoirement « maladie de Merlin ». Le vieillissement de Rachel s'opère dans le temps à la vitesse normale, mais
dans le mauvais sens, semble-t-il.
Sarai s'avança alors vers elle, en la regardant comme si elle était complètement folle.
« Je veux voir ma fille, »
dit-elle d'une voix calme mais ferme.
« J'exige de la voir immédiatement. »
Rachel se réveilla moins de 40 heures après l'arrivée de Sol et de Sarai. En quelques minutes, elle fut d'attaque, assise dans son lit, discutant pendant que les infirmiers et les médecins s'affairaient autour d'elle.
« Papa ? Maman ? Que faites-vous ici ?»
Mais avant qu'ils puissent répondre, elle regarda autour d'elle en sillant et ajouta
« Je ne comprends pas. Où sommes-nous ? Nous ne sommes pas à Kitz ?»
Sarai lui prit la main.
« Nous sommes sur le vecteur Renaissance, ma chérie, dans un hôpital de Vinci. »«
Renaissance ?» fit Rachel en écarquillant presque comiquement les yeux.
« Nous sommes dans le Retz ?»
Elle regarda de nouveau autour d'elle, totalement éberluée.
« Rachel, quelle est la dernière chose dont vous ayez gardé le souvenir ?»
lui demanda le docteur Singh. La jeune femme se tourna, sans comprendre, vers le médecin.
« La dernière chose dont je me souviens que je me suis couché à côté de Melio juste après... Après... »
Elle regarda ses parents, puis se toucha la joue du bout des doigts.
« Et Melio ? Tous les autres ? Ils sont... Tous les membres de l'expédition vont bien, »
fit le docteur Singh pour la calmer.
« Vous avez eu un léger accident. 17 semaines ont passé depuis. Vous êtes en sécurité dans le Retz. Tout le monde va très bien.
17 semaines ?
Sous le reste de son bronzage, Rachel était devenue très pâle.
« Comment te sens-tu, ma petite fille ?»
lui demanda Sol en lui prenant la main. Elle voulut lui serrer les doigts, mais elle était d'une faiblesse qui fendit le cœur à Sol.
« Je ne sais pas, »
réussit-elle à dire.
« J'ai la tête qui tourne. Tout est si embrouillé. »
Sarah s'assit au bord du lit et la serra dans ses bras.
« C'est fini maintenant, mon bébé. Tout va aller très bien, tu verras. »
Mélio entra à ce moment-là dans la chambre. Il n'était pas rasé et ses cheveux étaient hirsutes après le somme qu'il venait de faire dans le petit salon attenant.
« Rachel ?»
Elle se tourna vers lui sans quitter les bras protecteurs de sa mère.
« Salut ?»
dit-elle presque timide.
« Je suis revenue, tu vois. »
L'opinion de Sol avait toujours été que la médecine n'avait guère changé depuis l'époque des sangsues et des cataplasmes. Aujourd'hui, il vous mettait dans des centrifugeuses, il réalignait le champ magnétique de votre corps, il vous bombardait d'ondes soniques, il vous mettait des sondes cellulaires pour ausculter votre ARN, mais ils finissaient par avouer leur ignorance sans le dire vraiment en toutes lettres. La seule chose qui changeait tout le temps, c'était la note à payer, toujours plus élevée. Il était à demi assoupi dans son fauteuil lorsque la voix de Rachel le fit sursauter.
« Papa ?»
Il se redressa, lui prit la main.
« Là, ma petite fille. »«
Papa, dis-moi où je suis. Que s'est-il passé ?»«
Tu es sur Renaissance, à l'hôpital, ma chérie. Il y a eu un accident sur Hyperion. Tout va bien à présent, sauf en ce qui concerne ta mémoire qui a été légèrement affectée. »
Elle accentua la pression de sa main.
« Un hôpital ? Dans le Retz ? Comment je suis arrivée ici ? Depuis combien de temps ? » ?»«
5 semaines environ. » chuchota Sol. Quel est ton dernier souvenir, Rachel ?
Elle se laissa aller en arrière contre son oreiller et porta la main à son front sur lequel étaient disposés de minuscules capteurs.
Mélio et moi, nous étions allés à une réunion pour discuter avec les autres de la possibilité d'installer du matériel à l'intérieur du sphinx. Oh, mais j'ai oublié de te parler de Mélio, papa. C'est mon...
Oui,
soupira Sol en tendant son père soc à Rachel.
Écoute bien ce qui est enregistré là-dessus, ma petite fille.
Il quitta la chambre. Elle mit le père soc en marche et cligna plusieurs fois des paupières tandis que sa propre voix lui parlait.
« Bon, tu viens de te réveiller et tu ne sais plus où tu en es. Il t'est arrivé quelque chose, Rachel. Écoute bien. Cet enregistrement date du 12e jour du mois 10, année 457 de l'Égire, ou 2739 selon l'ancien calendrier. Oui, je sais, cela fait 6 mois standard plus tard que ton dernier souvenir. Mais ouvre bien les oreilles. Il est arrivé quelque chose à l'intérieur du sphinx. Tu t'es fait prendre par la marée du temps qui t'a changé. Tu vieillis à l'envers, même si ça paraît complètement idiot. Tu rajeunis à chaque instant qui passe. Mais ce n'est pas le plus important. Quand tu dors, quand nous dormons, tu oublies. Tu perds un jour, chaque fois, de tout ce qui s'est passé avant l'accident. Ne me demande pas pourquoi c'est ainsi. Les médecins n'y comprennent rien. Les spécialistes sont perdus. Si tu veux une comparaison, pense à un virus de l'ancien temps qui dévorerait les données enregistrées dans ton cerveau, à partir des dernières entrées. Ils ignorent pourquoi ta mémoire régresse pendant ton sommeil. Ils ont essayé de te donner des pilules anti-sommeil, mais au bout d'une trentaine d'heures, tu deviens complètement catatonique et le virus continue de faire son œuvre. Voilà. Veux-tu que je te dise ? Cette façon de te parler à la troisième personne a un effet thérapeutique. En réalité, j'attends qu'ils viennent me chercher pour me conduire en salle d'imagerie. Et je sais que je m'endormirai en revenant et que j'oublierai encore tout. Ça me fout vraiment la frousse. Bon, tu vas maintenant écouter un petit speech qui te mettra au courant de tout ce qui s'est passé depuis l'accident. Ah oui, maman et papa sont ici et ils sont au courant pour Mélio. En fait, c'est moi qui ne sais plus très bien où j'en suis. Quand avons-nous couché ensemble pour la première fois, hein ? 2 mois après notre arrivée sur Hyperion ? Dans ce cas, il ne nous resterait plus que quelques semaines pour que nous redevenions de simples connaissances. Dépêche-toi de profiter de tes souvenirs pendant que c'est encore possible, ma grande. Signé Rachel d'hier.
Lorsque Sol rentra dans la chambre, il trouva sa fille assise raide dans son lit, serrant encore le père soc dans ses mains,
le visage blême et l'air terrifié.
« Papa !»
Il alla s'asseoir auprès d'elle et la laissa pleurer. Pour le 20e jour d'affilée. 8 semaines standards après l'arrivée de Rachel sur Renaissance, Sol et Sarai firent leurs adieux à Rachel et Amélio sur le multiport d'Istrance de Vinci, d'où ils regagnèrent leur monde de Barnard.
« Elle n'aurait pas dû quitter si tôt l'hôpital !»
murmura Sarai, tandis qu'il prenait place dans la navette du soir en partance pour Crawford. Sous eux, le continent fut bientôt une mosaïque de carrés et de rectangles, prêt à être moissonné. Sol posa la main sur le genou de sa femme et se pencha vers elle. « Les médecins n'auraient pas mieux demandé que de la garder éternellement, » dit-il, « mais uniquement pour satisfaire leur curiosité. Je crois qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'aider, c'est-à-dire rien du tout. Elle a maintenant sa propre vie à vivre.
Mais pourquoi est-elle partie avec ce garçon? Elle le connaît à peine. »
Il soupira et se laissa aller en arrière contre le dossier de son siège. Dans 2 semaines, elle ne se souviendra même plus de lui, fit-il, tout au moins par rapport à leur relation actuelle.
Il faut essayer de comprendre le point de vue de Rachel, Sarai. Elle se bat chaque matin pour essayer de s'y retrouver dans un monde pour elle insensé. Elle a 25 ans et elle est amoureuse. Laisse-la profiter de son bonheur.
Sarai se tourna vers le hublot. Ensemble, sans parler, ils contemplèrent le soleil rouge suspendu à l'orée du soir, comme un ballon au bout d'une ficelle. Le 2e semestre universitaire était déjà bien avancé lorsque Rachel appela son père. C'était un message unidirectionnel par câble d'Istrance, émis à partir de Freeholm, et son image flottait au centre de la fosse Hollow comme un fantôme à l'aspect étrangement familier.
« Salut-moi. Salut pas. Désolé de n'avoir pas eu le temps d'appeler ces dernières semaines. Vous savez sans doute que j'ai quitté l'université, et Emilio par la même occasion. C'était stupide de ma part de vouloir m'inscrire à de nouveaux cours. J'oubliais le mardi ce que j'avais fait le lundi. Même avec des disquettes et un persoc, le combat était perdu d'avance. Je m'inscrirai peut-être en première année. Je n'ai rien oublié du programme. Mais je dis ça juste pour plaisanter. Ça ne pouvait pas continuer comme ça avec Melio. C'est du moins ce que me disent mes notes. Ce n'est pas de sa faute, j'en suis persuadé. Il a été patient et adorable jusqu'au bout, mais on ne peut pas faire démarrer ainsi chaque jour une relation à partir de rien. Notre chambre était pleine de photos de nous, de notes que je m'étais écrites à moi-même, de holo pris sur Hyperion. Pourtant, il faut me comprendre. Chaque matin, il était devenu pour moi un étranger. Ce n'est qu'au milieu de l'après-midi que je commençais à croire à ce qu'il avait été pour moi, même si je n'en gardais aucun souvenir. Le soir, je pleurais dans ses bras et je finissais tôt ou tard par m'endormir. Oui, je pense que c'est bien mieux ainsi.
L'image de Rachel sembla hésiter, se tourna à demi comme si elle voulait mettre fin à la communication, puis se ravisa. En souriant, elle ajouta
« J'ai laissé tomber mes études pour quelque temps. Le centre médical de Freeholm voudrait m'avoir à plein temps, mais il faudrait y mettre le prix. J'ai une proposition de l'Institut de recherche de Tossetti qui me paraît difficile à battre. Il m'offre, je crois qu'ils appellent ça un poste de chercheur honoraire. C'est plus que ce que nous avons payé en tout pour mes 4 ans d'études à Knighton-Elser et pour mon séjour à Reichs. J'ai quand même refusé. Je continue de suivre chaque jour mon traitement de l'hôpital, mais les transplantations d'ARN me laissent des bleus et me dépriment un peu. Sans doute parce que chaque matin, quand je me lève, je ne me rappelle pas comment j'ai eu ces bleus. N'importe comment, je compte habiter quelque temps chez Tania, et puis j'ai pensé que je pourrais ensuite revenir quelque temps à la maison. Ça va être bientôt le 2e mois et mon anniversaire. J'aurai de nouveau 22 ans. Ça fait tout drôle, hein? Mais c'est plus facile pour moi d'être avec des gens que je connais. J'ai rencontré Tania pour la première fois juste après mon arrivée ici. Je venais d'avoir 22 ans. Alors vous comprenez... Est-ce que ma chambre est toujours là, maman, ou l'as-tu transformée en salon de Mahjong comme tu menaçais tout le temps de le faire? Écrivez-moi vite ou appelez-moi. La prochaine fois, je me fendrai d'une communication double voix pour qu'on puisse discuter vraiment. En attendant, si vous... C'est-à-dire...
Elle fit un joyeux signe de la main en ajoutant
« Faut que j'y aille. Salut les poilus. Je vous adore tous les deux. »
Sol fit le voyage à Bussard, la semaine précédant l'anniversaire de Rachel,
pour l'accueillir à l'unique Terminex Distrans public de la planète. Ce fut lui qui la vit le premier, au milieu de ses bagages, près de l'horloge florale. Elle avait un aspect très jeune, mais pas tellement plus jeune après tout que le jour où il s'était quitté sur le vecteur Renaissance. Ou plutôt, se dit-il en la regardant mieux, c'était dans son maintien qu'il y avait une différence. Elle semblait beaucoup moins assurée qu'avant. Mais il secoua la tête pour chasser ses pensées, cria son nom et courut la serrer dans ses bras. L'expression d'étonnement sur le visage de Rachel, quand il la lâcha, était si intense qu'il ne put l'ignorer.
« Qu'y a-t-il, ma chérie ? » demanda-t-il. « Quelque chose ne va pas ?»
C'était l'une des rares fois où sa fille avait semblé à court de mots.
« J'avais oublié, »
bredouilla-t-elle. Elle secoua la tête d'une manière qu'il connaissait bien et réussit à rire et à pleurer en même temps.
« Tu n'es plus tout à fait le même, c'est tout, » lui dit-elle. « Je me souviens du jour où j'ai quitté la maison comme si c'était hier, alors tu comprends quand j'ai vu tes cheveux ?»
Elle porta la main devant sa bouche. Sol se passa les doigts dans les cheveux.
« Je vois, »
dit-il soudain lui-même au bord du rire et des larmes.
« Pour toi, ça fait un peu plus de 11 ans avec tous tes voyages. Et tu me retrouves vieux et chauve. »
Il lui ouvrit de nouveau ses bras.
« Bienvenue à la maison, petite. »
Rachel se blottit dans le cercle protecteur que lui offrait son père. Durant plusieurs mois, les choses se passèrent très bien. Rachel, entourée d'objets familiers, se sentait plus en sécurité. Et pour Sarai, le chagrin causé par la maladie de sa fille était provisoirement compensé par le plaisir de la voir de nouveau auprès d'elle. Chaque matin, Rachel se levait de bonne heure et prenait connaissance de son aide-mémoire personnelle qui contenait des images de Sol et de Sarai d'une douzaine d'années plus vieilles que dans son souvenir. Sol essayait d'imaginer ce qu'éprouvait sa fille en se réveillant dans son lit, âgée de 22 ans, la mémoire pleine d'images décalées, en vacances chez elle, avant de retourner à ses études sur une autre planète, quand elle voyait ses parents plus vieux, la maison changée, la ville différente, les nouvelles étranges, des années d'histoire ayant passé sans qu'elle s'en aperçoive. Il en était incapable. Leur première erreur fut d'accéder à la demande de Rachel en invitant ses anciens amis à son 22e anniversaire. Ils vinrent tous comme la première fois. L'irrésistible Nikki, Don Stewart et son copain Howard, Cathy Obeg, Martha Tin et sa meilleure amie, Lina McKyler. Tous de fraîche date à l'université, tous à peine sortis du cocon de leur enfance et prêts à se tisser une nouvelle vie d'adulte. Rachel les avait tous revus depuis son retour, mais elle s'endormait chaque soir et elle oubliait. Et cette fois-là, Sol et Sarai oublièrent qu'elle avait oublié. Nikki avait 34 ans et 2 enfants. Elle était toujours débordante d'énergie et d'un comique irrésistible, mais d'une autre génération selon les critères de Rachel. Don et Howard parlèrent de leurs investissements, des prouesses sportives de leurs enfants et de leurs projets de vacances. Cathy était toute désorientée. Elle n'adressa que 2 fois la parole à Rachel, et encore comme s'il s'agissait d'une autre personne qui voulait se faire passer pour elle. Martha ne cacha pas sa jalousie devant la jeunesse de Rachel. Lina, qui s'était convertie entre-temps au gnosticisme zen, se mit à pleurer au milieu de la soirée et partit la première. Lorsque tout le monde eut pris congé, Rachel, au milieu du champ de bataille du salon, contempla le gâteau à moitié intact, mais ne pleura pas. Avant de monter se coucher, elle serra sa mère dans ses bras et murmura à l'oreille de son père
« Je t'en prie, papa, ne me laisse plus jamais recommencer une telle bêtise. »
Puis elle alla se coucher. Ce printemps-là, Sol refit le même cauchemar. Il était perdu dans un endroit vaste et noir, éclairé seulement par 2 globes rouges. Et la voix, qu'il ne trouvait nullement absurde, lui dit sur un ton monocorde « Sol, prends ta fille unique, Rachel, que tu aimes, et rends-toi sur le monde qu'on appelle Hyperion pour l'immoler par le feu à l'un des endroits que je t'indiquerai. » Sol avait hurlé dans les ténèbres de son rêve.
« Tu me l'as déjà prise, salaud ! Que faut-il donc que je fasse pour que tu me la rendes ? Dis-moi ce que je dois faire, maudit ! »
Il s'était alors réveillé en sueur, les yeux pleins de larmes et le cœur plein de rage. Dans la chambre voisine, Rachel dormait, dévorée par son virus. Au cours des mois suivants, Sol chercha par tous les moyens à rassembler le plus possible d'informations sur Hyperion, les tombeaux du temps et le Gritch. En tant que chercheur aguerri, il fut surpris de constater que les documents sur la question, compte tenu de son caractère spectaculaire, étaient très peu nombreux. Il y avait l'église Gritchtek, naturellement. Il n'existait aucun temple de cette dénomination sur le monde de Barnard, mais il pouvait contacter ceux des autres planètes du Retz. Cependant, il s'aperçut bientôt que rassembler des faits à partir des écrits concernant le culte Gritchtek revenait à essayer de dresser un plan de Sarnat en visitant un monastère bouddhiste. Le dogme Gritchtek faisait bien allusion au temps, mais uniquement dans la mesure où le Gritch était censé être l'ange du châtiment venu d'au-delà du temps. Et ce temps authentique n'existait plus pour la race humaine depuis que l'ancienne Terre était morte. Les 4 siècles qui avaient passé depuis se situaient dans un temps factice. Ce genre de langage à double sens n'évoquait rien d'autre, pour Sol, que la pommade égocentrique commune à presque toutes les religions. Néanmoins, il avait l'intention d'aller visiter un temple Gritchtek dès qu'il aurait exploré des voies de recherche un peu plus sérieuses. Melio Arundes organisa une nouvelle expédition sur Hyperion, également patronnée par l'université de Reichs, avec pour objectif officiel l'étude des phénomènes liés aux marées du temps et à la maladie de Merlin dont souffrait Rachel. Fait important, le protectorat de l'hégémonie avait décidé d'envoyer, à l'occasion de cette expédition, un émetteur d'Istrance destiné au consulat de Kitz. Ce qui n'empêchait pas qu'il faudrait au moins 3 ans en temps du Retz pour que l'expédition arrive sur Hyperion. La première réaction de Sol avait été de vouloir partir avec Arundes et son équipe. Dans tout holodrame qui se respecte, les protagonistes retournent toujours sur les lieux de l'action. Mais il avait rapidement surmonté cette impulsion. Il était avant tout historien et philosophe. Il ne pouvait espérer apporter qu'une modique contribution au succès d'une telle entreprise. Rachel manifestait toujours un talent et un intérêt prometteur en tant qu'étudiante en archéologie, mais ses capacités déclinaient chaque jour, et Sol ne pensait pas qu'elle gagnerait à retourner sur les lieux de son accident. Chaque matin, elle aurait un choc en se réveillant sur un monde inconnu pour accomplir une mission qu'elle serait de moins en moins apte à accomplir. Sa raille ne permettrait jamais une telle chose. Il laissa momentanément de côté le livre auquel il travaillait actuellement, une analyse des théories de Kierkegaard sur l'éthique en tant que moralité de compromis appliquée à l'appareil légal de l'hégémonie. Puis il s'occupa de rechercher des informations ésotériques sur le temps, sur Hyperion et sur l'histoire d'Abraham. Les mois qu'il passa à poursuivre ses activités habituelles et à réunir des informations ne suffirent pas à satisfaire son besoin d'action. Régulièrement, il s'en prenait, pour se libérer de ses frustrations, aux représentants des différentes spécialités scientifiques et médicales qui défilaient pour examiner Rachel comme des pèlerins dans un lieu saint.
« Comment est-ce possible ? »
hurla-t-il à la figure de l'un de ses spécialistes, qui avait commis l'erreur de se montrer à la fois suffisant et condescendant avec le père de la jeune malade et qui avait un crâne si dégarni que les traits de son visage semblaient dessinés sur une boule de billard.
« Elle commence à rapetisser !»
s'exclama-t-il en saisissant littéralement par le col de sa blouse le pauvre homme qui reculait.
« Cela ne se voit pas immédiatement, mais sa masse osseuse est en train de diminuer. Comment peut-on seulement concevoir qu'elle puisse redevenir enfant ? Qu'en est-il de cette foutue loi de la conservation de la masse ?»
Le spécialiste avait remué les lèvres, mais il était trop terrifié pour qu'il en sorte un son. L'un de ses collègues barbus avait expliqué à sa place. « Voyez-vous, H. Weintraub, vous devez comprendre que votre fille habite actuellement... Essayez d'imaginer un espace local où l'entropie serait inversée. » Sol fit volte-face pour affronter le barbu.
« Essayez-vous de m'expliquer qu'elle est simplement prisonnière d'une bulle de régression ?»«
Pas tout à fait, » déclara l'homme en se massant le menton. « Pour choisir une analogie peut-être plus appropriée, biologiquement tout au moins. Disons que chez elle, le mécanisme de vie et de métabolisme semble avoir été inversé et que... »«
Ridicule !»
coupa Sol.
« Si c'était le cas, ses fonctions de nutrition seraient remplacées par des fonctions d'excrétion. Elle régurgiterait sa nourriture, etc. » Et que faites-vous de la sphère neurologique ? Inversez les influx électrochimiques et vous n'obtiendrez que de l'incohérence. Son cerveau fonctionne parfaitement, messieurs. C'est sa mémoire qui disparaît. Pourquoi ? Êtes-vous capable de me l'expliquer ?
le premier spécialiste avait fini par retrouver sa voix. « Nous ignorons la réponse à cette question à Schweintraub, » dit-il. « Mathématiquement, l'organisme de votre fille ressemble à une équation à effet de temps inversé, ou peut-être un objet qui serait passé au travers d'un trou noir en rotation rapide. Nous ne savons pas comment une telle chose a pu se produire, ni pourquoi ce qui est physiquement impossible est arrivé en l'occurrence. Nos connaissances en la matière ne sont pas suffisantes. »
Sol leur serra la main.
« Très bien, » dit-il. « C'est tout ce que je voulais savoir, messieurs. Je vous souhaite bon voyage. »
Le soir de son 21e anniversaire, Rachel alla frapper à la porte de son père une heure après qu'il se fut retiré.
« Papa ? » ?»«
Qu'y a-t-il, ma petite fille ?»
Passant une robe de chambre, il la rejoignit sur le seuil en demandant.
« Tu n'arrives pas à dormir ?»«
Ça fait deux nuits que je me couche tard, » avoua-t-elle.
« J'ai pris des pilules anti-sommeil pour me mettre mon aide-mémoire à jour. »
Sol hocha silencieusement de la tête.
« Papa, tu ne veux pas descendre boire un verre avec moi ? Il y a plusieurs choses dont j'aimerais te parler. »
Il prit ses lunettes sur la table de nuit et la rejoignit en bas. Ce fut la première et la dernière fois qu'il se cuita avec sa fille. Ce ne fut pas une cuite retentissante. Ils bavardèrent en plaisantant et en faisant des calembours jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus continuer tant ils pouffaient. Rachel commença une histoire, s'arrêta pour boire au moment le plus drôle et faillit recracher son whisky par le nez dans son verre tant elle riait. Chacun d'eux pensait que c'était la chose la plus drôle qui leur fût jamais arrivée.
« Je vais chercher une autre bouteille, »
fit Sol lorsque les larmes eurent cessé de jaillir.
« Le doyen Moore m'a offert un excellent scotch à Noël, si je me souviens bien. »
Quand il revint, marchant comme sur des œufs, Rachel s'était assise droite sur le canapé et avait ramené ses cheveux en arrière avec sa main. Il lui versa une petite quantité d'alcool et ils burent en silence pendant quelques instants.
« Papa ?»«
Oui, Rachel ?»«
J'ai bien réfléchi à tout. Je me suis vue, je me suis écoutée. » J'ai vu les holos de Lina et des autres à l'âge mûr.
N'exagérons rien, lui dit Sol.
Lina n'a pas encore 35 ans. Enfin, plus vieux, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, j'ai lu les rapports médicaux, j'ai examiné les photos d'Hyperion et... Tu ne sais pas ?
Quoi ?
Je n'arrive pas à y croire, papa.
Il posa son verre et regarda sa fille. Elle avait un visage plus épanoui que jamais, plus direct. Et même plus beau.
Je veux dire que j'y crois, bien sûr,
reprit-elle avec un petit rire apeuré.
Je sais bien que maman et toi, vous ne me joueriez pas un tour aussi cruel. Et puis, il y a votre âge et les nouvelles du monde. Je suis bien obligée d'admettre que c'est réel. Mais je ne peux pas y croire. Est-ce que tu me comprends, papa ?
Murmura Sol.
Je me suis réveillée ce matin en me disant... « Bravo, demain j'ai mon examen de paléontologie et je n'ai presque pas révisé. J'avais tellement envie de donner une leçon à Roger Sherman qui se croit si futé. »
Sol but une gorgée de whisky.
« Roger est mort il y a 3 ans dans un accident d'avion au sud de Bussard, » dit-il.
Il n'aurait pas dit cela s'il n'avait pas tant bu. Mais il fallait qu'il sache quelle autre Rachel se cachait dans celle qu'il avait devant lui.
« Je sais, »
dit-elle en remontant ses genoux sous son menton.
Je me suis mise à jour sur tous les gens que je connais. Graham est morte. Le professeur Eckhart a pris sa retraite. Nikki a épousé je ne sais quel voyageur de commerce. Il se passe beaucoup de choses en 4 ans.
Plus de 11 ans, corrigea Sol. Ton aller-retour sur Hyperion t'a donné 6 ans de retard sur nous.
Ça, c'est normal,
s'écria Rachel.
Il y a des tas de gens qui voyagent à l'extérieur du Retz. Ils ne sont pas traumatisés pour autant.
Sol hocha lentement la tête. «
Ton cas est différent, ma petite fille. »
Elle parvint à sourire et but le reste de son scotch.
« Ça, c'est le plus bel euphémisme que j'ai jamais entendu, »
dit-elle en reposant son verre dans un bruit sec.
« Voilà donc ce que j'ai décidé. Je viens de passer 1 jour et demi à trier toutes les notes que j'ai rassemblées pour me faire comprendre où j'en suis. » Et je constate que ça ne m'aide pas du tout.
Sol demeurait parfaitement immobile, osant à peine respirer.
« Je veux dire, »
continua Rachel, «
que je sais que je vais rajeunir chaque jour et perdre le souvenir de gens que je n'aurais même pas encore rencontrés. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je deviendrai de plus en plus petite et de moins en moins capable de comprendre, jusqu'au moment où je disparaîtrai, comme ça? Mon Dieu! C'est vraiment cocasse, tu ne trouves pas?
Elle s'était courbée davantage en avant, en serrant plus fort ses genoux de ses deux mains croisées.
Non, fit Sol d'une voix douce. Je sais, ça ne l'est pas du tout,
soupira Rachel, dont les grands yeux noirs s'étaient embués de larmes.
Ce doit être le pire cauchemar, pour maman et pour toi, de me voir chaque matin descendre l'escalier avec des souvenirs qui, pour moi, sont d'hier. Jusqu'à ce que ma propre voix m'explique que cet hier est déjà passé depuis des années. Et que j'ai eu une liaison avec quelqu'un qui s'appelle Amelio.
Melio, souffla Sol.
Peu importe. Comprends que ça ne m'aide pas du tout, papa. J'ai à peine le temps d'absorber tout ça qu'il faut encore que j'aille me coucher et... Tu connais la suite mieux que moi.
Qu'est-ce que... commença Sol avant de se racler la gorge. Qu'est-ce que tu voudrais que nous fassions, ma petite fille? Elle le regarda dans les yeux, puis sourit. C'était le même sourire que celui dont elle l'avait gratifié dans les 5 premières semaines de son existence.
« Ne me dis rien, papa, » fit-elle d'une voix ferme. « Ne me laisse pas m'expliquer quoi que ce soit. Ça fait trop mal. Je n'ai jamais vécu tout cela, tu comprends ?»
Elle s'interrompit pour se passer la main sur le front avant de continuer.
« Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas ? La Rachel qui est allée sur une autre planète et qui est tombée amoureuse et qui a souffert. C'est une autre, Rachel. Je n'ai pas à souffrir pour elle. Tu me comprends, dis ? »
Elle pleurait à présent.
« Je te comprends, »
dit Sol en lui ouvrant ses bras pour la consoler. Il sentit sa chaleur et ses larmes contre son torse.
« Je te comprends très bien, »
ajouta-t-il. Plusieurs messages d'Istrance leur parvinrent d'Hyperion cette année-là, mais ils n'apportaient rien. La nature et la source des champs anentropiques demeuraient un mystère. Aucune activité particulière des marées du temps n'avait été enregistrée aux alentours du Sphinx. Des expériences sur des animaux de laboratoire dans les régions des marées s'étaient soldées par la mort de certains sujets, mais la maladie de Merlin n'avait pu être reproduite. Melio achevait chacun de ses messages par les mots « Tout mon amour à Rachel ». Sol et Sarai empruntèrent de l'argent à l'université de Reichs pour se soumettre, dans une clinique de Bussard, à un traitement Poulsen simplifié. Ils étaient déjà trop vieux pour songer à prolonger leur existence d'une centaine d'années, mais cela leur redonna l'aspect d'un couple de quinquagénaires plutôt que de septuagénaires. Ils étudièrent attentivement leurs vieilles photos de famille et n'eurent pas trop de difficultés à s'habiller comme ils le faisaient une quinzaine d'années plus tôt. Rachel, âgée maintenant de 16 ans, descendit deux par deux les marches d'escalier avec son persoc branché sur la radio universitaire.
« Est-ce que je peux avoir des soufflettes de riz ?»«
C'est ce que tu prends chaque matin, » lui dit Sarai en souriant.
« Je sais, mais il pourrait ne plus en rester ou je ne sais quoi. »« J'ai entendu le téléphone, c'était Nikki ?»«
Non, » fit Sol.
« Zut !»
s'exclama Rachel.
« Pardon !»
s'excusa-t-elle aussitôt.
« Mais elle avait promis de m'appeler dès que les résultats des épreuves communes seraient affichés. » Ça fait déjà 3 semaines que les contrôles ont eu lieu. On devrait me mettre au courant quand même.
Ne t'inquiète pas, lui dit Sarai en posant la cafetière sur la table, puis en servant Rachel et elle-même.
Je suis sûre que tes résultats seront assez bons pour te donner accès à l'établissement de ton choix. Maman, soupira Rachel, tu ne peux pas savoir. Ils ne font pas de cadeaux, tu sais.
Elle fronça les sourcils.
Tu n'aurais pas vu mon encible de maths? Je ne retrouve plus rien avec le désordre qu'il y a dans ma chambre.
Sol s'éclaircit la voix.
Pas d'école aujourd'hui, ma petite fille.
Pas d'école ?
S'étonna Rachel en ouvrant de grands yeux.
Un mardi ? À 6 semaines de la remise des diplômes ? Et pourquoi ça ?
Tu as été souffrante,
déclara Sarai avec fermeté.
Tu peux rester à la maison aujourd'hui. Juste aujourd'hui.
Le front de Rachel se plissa de plus belle.
Souffrante ? Je ne me sens pas souffrante, maman, mais simplement toute drôle. Comme si quelque chose clochait, mais je ne sais pas quoi au juste. Par exemple, pourquoi est-ce que le canapé n'est plus à sa place dans le salon des médias? Et où est passé Chips? Je n'ai fait que l'appeler, mais il ne vient pas.
Sol lui prit gentiment le poignet.
Tu as été un peu fatigué, lui dit-il.
Le docteur a dit que tu te réveillerais peut-être avec quelques trous de mémoire.
Nous allons en parler un peu en nous promenant jusqu'au campus, si tu veux.
D'accord.
Rachel leva vers lui un visage radieux.
Manquer les cours et faire un tour sur le campus?
D'accord.
Elle feignit un instant la consternation avant d'ajouter
« Pourvu qu'on ne tombe pas sur Roger Sherman. Il est en première année de maths et je ne peux pas le voir. »
« Tu ne risques pas de le rencontrer, ma petite fille. Tu es prête ?»«
Un instant. »
Elle se pencha vers sa mère pour l'embrasser.
« Salut, poilu !»« À plus tard, tête de lard !»
fit Sarah.
« Ça y est !»
dit Rachel en secouant ses longs cheveux.
« Je suis prête, papa !»
Les voyages fréquents à Bussard avaient rendu nécessaire l'achat d'un VEM et, par une fraîche matinée d'automne, Sol prit la route la plus longue, bien en dessous des couloirs de circulation, décidé à profiter du spectacle et des senteurs des champs moissonnés qui s'étendaient de part et d'autre. Plusieurs paysans qui travaillaient là firent signe en le voyant passer. Bussard s'était étendu de manière impressionnante depuis l'enfance de Sol, mais la synagogue était toujours au même endroit, à la limite de l'un des quartiers les plus anciens de la ville. C'était un vieux temple. Sol se sentait très vieux. Et même la calotte qu'il posa sur sa tête en entrant lui parut terriblement vieille, usée par des dizaines d'années. Seul le rabbin était jeune. Il devait avoir tout de même 40 ans passés, se disait Sol, en voyant les cheveux clairsemés qui dépassaient autour de la kippa noire. Cependant, à ses yeux, c'était encore un jeune homme.